Il est 8h sur France Inter et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Voici le journal de Cécile Bidot. Bonjour Cécile.
Bonjour. Comment allons-nous commencer 2022? Évidemment, sous le signe du Covid-19 et de son variant Omicron. Mais après, il y a plusieurs variations possibles sur le même thème. Deux rendez-vous essentiels vont nous éclairer cet après-midi. Un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres. Le gouvernement veut instaurer le pass vaccinal. Nous verrons dans quelles conditions. Car l'épidémie continue de flamber. Le taux d'incidence actuel n'a jamais été atteint en France. Tandis qu'aux États-Unis, les autorités de New York alerte, les enfants de moins de 5 ans représenteraient la moitié des hospitalisations. Pour mesurer l'ampleur de cette cinquième vague, vous recevez deux invités à 8h20, Christelle Robière.
Oui, avec Yaël Gauze, l'épidémiologiste Dominique Costagliola et le pédiatre Robert Cohen, invité du grand entretien de la matinale. Amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard vient d'ouvrir.
En Afghanistan, les femmes ne peuvent plus parcourir plus de 70 km sans être accompagnées d'un homme de leur famille. Nouveau signe que les talibans n'ont aucune intention de relâcher la pression qui pèse sur les femmes. Dans ce journal, nous allons en Italie où la ville de Naples veut faire disparaître les traces de la mafia de ses murs. Nous entamons notre série sur les indiscrets de la campagne présidentielle en France. Et puis nous vous dévoilons les trois albums coup de cœur de l'année 2021 pour la rédaction de France Inter. Un indice, il y a une chanteuse, un chanteur et un groupe.
France Inter.
Le variant aura-t-il raison du nouvel an? Omicron est le sujet de préoccupation majeure en cette période de fête. En France, le taux d'incidence a atteint un niveau jamais vu depuis le début de la pandémie de Covid-19. 700 cas pour 100 000 habitants. Emmanuel Macron préside donc un nouveau conseil de défense sanitaire cet après-midi en visioconférence depuis le fort de Brégançon. Le dilemme est de plus en plus complexe à mesure que les courbes grimpent. Il faut freiner le virus sans paralyser le pays. Parmi les questions qui se posent donc, il y a celle du couvre-feu pour la Saint-Sylvestre, pas encore tranchée, celle de la prolongation des vacances scolaires d'une semaine que réclament des soignants et celle du délai d'isolement des cas contacts. Juste après, à 17h, autre conseil, même sujet. Le Conseil des ministres examine un nouveau projet de loi sanitaire, le 13e depuis le début de la pandémie. C'est d'ailleurs rarissime que le gouvernement se réunisse entre Noël et Nouvel An. Le texte vise à mettre en place un pass vaccinal à partir du 15 janvier. Maxence Lambrecq, vous avez pu l'examiner, que prévoit-il ?
Dès l'âge de 12 ans, passe vaccinal obligatoire pour les restaurants, débits de boissons, activités culturelles, de loisirs, foires, séminaires, salons professionnels et transports interrégionaux. La liste s'arrête là. Le pass sanitaire restera d'actualité dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et donc dans les hôpitaux et les EHPAD. Un test suffira. Les très rares certificats de contre-indication et la preuve d'un rétablissement du Covid vaudront passe vaccinal. Ceux qui sont obligés de présenter leur passe pour travailler bénéficieront d'une tolérance, un pass vaccinal dès la première dose, même si la grande majorité ont déjà un schéma vaccinal complet. Ceux qui transmettront leur QR code à un ami, à leur conjoint, risqueront désormais 1000 euros d'amende, 8 fois plus. Même tarif pour ceux qui utilisent un pass qui n'est pas le leur, égare aux restaurateurs qui ne contrôlent pas les passes dès le premier manquement, 1000 euros également. Trois articles en tout et pour tout, rien sur un futur pass en entreprise. On voulait aller vite, se justifie Matignon. On avait besoin d'un texte simple et consensuel. Il n'en demeure pas moins inédit et s'appliquera sans doute jusqu'à l'été, jusqu'au 31 juillet sur le papier.
Et avec cette loi, le gouvernement souhaite également donner la possibilité aux restaurateurs et autres personnes qui contrôlent ce pass vaccinal de demander une pièce d'identité en cas de doute sur l'authenticité du document. Jusqu'ici, seules les forces de l'ordre y étaient autorisées. Alors ces contrôles par des particuliers, des privés, sont-ils possibles et légaux? Paul Cassia, professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, estime que oui, à condition de rester dans les clous.
Normalement, tout ce qui relève de la police administrative doit être exercé par un agent habilité et pas par une personne privée. Ce point-là pourrait faire hésiter sur la constitutionnalité du contrôle éventuel, mais d'un autre côté, s'il y a une discordance entre les deux titres, passe sanitaire d'un côté et document d'identité de l'autre, dans ce cas-là, l'entreprise ne peut pas sanctionner. La seule sanction, c'est l'interdiction d'accéder à ces locaux, alors que les agents des forces de l'ordre, eux, peuvent infliger, le cas échéant, les sanctions type contravention ou sanctions pénales. Il y a une nuance, elle est délicate, mais d'ores et déjà, il y a des opérateurs privés qui font des vérifications d'identité. Par exemple, pour l'accès à des casinos, par exemple, pour l'accès à des discothèques, par exemple, pour l'achat d'alcool, de sorte que, en elle-même, la vérification d'identité par une entreprise privée existe déjà en pratique.
Paul Cassia, professeur de droit avec Laurélie Carive. La vague Omicron coupe les ailes de nombreuses compagnies aériennes. 8000 vols ont été annulés ce week-end à travers le monde. Pilotes, hôtesses, stewards, malades ou cas contacts, la pandémie cloue au sol le personnel navigant et désorganise les rotations. En France, il y a une communauté qui se sent particulièrement coupée de son pays d'origine. Les Chinois, la Chine, berceau de l'épidémie de coronavirus, verrouillée, cadenassée et de vague en vague, il est quasiment impossible d'aller rendre visite à sa famille et à ses proches. Delphine Evenou a rencontré un couple originaire de la région de Wuhan, installé à Meudon dans les Hauts-de-Seine.
Le sapin, bien décoré, trône au milieu du salon pour faire plaisir à Olivia, 6 ans, mais le cœur n'est pas vraiment à la fête.
La famille nous manque et on attend, pour l'instant on ne peut rien faire, c'est juste attendre quand sera ouvert les frontières. Là.
La seule contact, c'est passé par la vidéoconférence.
Le Covid a compliqué la vie de Shen et Luo dès le début. Janvier 2020, les parents obtiennent un visa pour un nouvel an chinois à Paris.
Juste la veille, avant qu'ils partent de Wuhan à Paris, il y a un confinement à Wuhan.
Cela fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas revu leurs proches, mais ils ont arrêté de faire des projets.
Avant, on discute, ah oui, peut-être le printemps, oui, peut-être quand, l'été vacances. Mais maintenant, on ne discute même pas, on n'a plus de morale. On ne parle même pas ça. C'est pas la peine de parler parce qu'il n'y a aucun sens.
Et pour ce couple qui travaille à l'université, une angoisse, celle de ne pas pouvoir offrir une vraie double culture à leur fille.
Il y a une branche, ta racine en Chine aussi, mais maintenant, je ne dis pas qu'elle a complètement l'oublié, mais très loin quand même. J'ai peur qu'elle perde un peu cette culture.
D'autant qu'en France aussi, les liens s'étiolent.
Ça fait 2 ans. Les gens sont habitués de garder la distance. Juste envoyer un message sur WhatsApp.
Le nouvel an chinois, dans un mois, devrait ainsi rester virtuel pour la famille.
Et depuis hier soir en Chine, la ville de Xi'an, considérée comme le nouveau Wuhan, est en cours de désinfection à l'eau de Javel. 13 millions d'habitants sont déjà confinés.
Il est 8h07. Le Covid peut avoir des conséquences là où on ne l'attend pas forcément.
Sur l'électricité, par exemple, en hiver, on consomme beaucoup, mais EDF doit arrêter plusieurs de ses réacteurs à cause de travaux de maintenance retardés par la crise sanitaire. Alors, risque-t-on des coupures d'électricité ces prochaines semaines ? Élément de réponse avec Delphine Simon.
14 sur 56, c'est le nombre de réacteurs à l'arrêt en cette fin décembre. C'est pratiquement un quart du parc nucléaire qui est hors d'usage, à peu près autant que l'an passé, mais on était déjà à un niveau bas, reconnaît EDF. Or, le gestionnaire de réseau RTE s'attend à un hiver en vigilance particulière. Le Covid a bousculé le calendrier de maintenance des centrales. Les répercussions se feront sentir au moins jusqu'au printemps. Pour compenser, la France importe beaucoup plus que d'habitude ces derniers jours, à un tarif qui peut atteindre 6 fois le prix de l'électricité produite par EDF. Jusque fin décembre, on est serein, explique-t-on chez RTE. En période de vacances, on consomme moins, mais en janvier-février, si l'hiver est rigoureux, cela pourrait poser problème. RTE fait tourner ses modèles de prévision et fera le point jeudi. Mais de toute façon, en cas de pic de consommation, des solutions existent. Les industriels peuvent par exemple arrêter momentanément de consommer. On peut aussi baisser un peu la tension sur le réseau électrique. En dernier recours, des coupures ciblées peuvent être décidées. Ce serait du jamais vu.
Après une pause de 10 jours, les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd'hui à Vienne, en Autriche. L'objectif n'a pas changé, trouver un terrain d'entente entre Téhéran et Washington afin de sauver l'accord dénoncé en 2018.
Les talibans durcissent encore les règles imposées aux femmes afghanes.
Nouvelle décision annoncée hier. Si elles souhaitent voyager sur plus de 70 kilomètres, elles doivent obligatoirement être accompagnées par un homme, membre de leur famille proche. C'est le redouté ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice qui impose cette nouvelle règle, nouvelle entorse aux droits humains. Les précisions de Sonia Ghezali, correspondante de RFI dans la région.
Dans les faits, cette règle est déjà en vigueur depuis plusieurs mois dans de nombreuses provinces. Les restrictions aux femmes vont même plus loin et certaines Afghanes à Kaboul, par exemple, l'ont déjà expérimenté. Certaines se sont vues refuser l'accès à des ministères car elles n'étaient pas accompagnées d'un homme. D'autres ont vu leur demande de passeport rejetée car elles étaient seules lorsqu'elles ont soumis leur requête. Dans la province de Razni, dans le centre du pays, les femmes ne sont pas acceptées. Dans les cliniques, si elles ne sont pas accompagnées d'un tuteur masculin, indique une militante féministe afghane sur Twitter. Qui a déjà vu une femme enceinte se rendre à la clinique avec un homme en zone rurale, demande-t-elle. Et qu'en est-il des femmes veuves, de celles qui n'ont aucun homme dans leur famille? Ce sont les questions qui sont en effet souvent soulevées. Certaines ONG reconnaissent travailler déjà depuis plusieurs années dans certaines zones du pays en respectant la règle du mahram pour leurs employées femmes. Les talibans avaient promis d'être être moins strictes que lors de leur premier régime. Leur décision démontre le contraire. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
Les funérailles de Desmond Tutu auront lieu samedi dans son ancienne paroisse en la cathédrale Saint-Georges du Cap. L'archevêque sud-africain, figure de la lutte contre l'apartheid, prix Nobel de la paix en 1984, est mort hier matin à l'âge de 90 ans. Dans Géopolitique, Pierre Aski nous dresse son portrait. C'est à suivre à 8h15 et à lire sur franceinter.fr. En Italie, les autorités ne veulent plus voir de mafieux sur les murs de Naples. Les grandes fresques murales font partie du patrimoine napolitain. On pense bien sûr à Maradona qui s'étale en triple XL. Mais il y a aussi beaucoup trop de symboles liés à la Camorra, la mafia de Naples. Le préfet a donc décidé de les faire effacer. Et ce n'est pas simple comme un coup d'éponge. Reportage sur place du correspondant de France Inter, Bruce de Galzin.
À Naples, selon la police, il y a 15 000 lieux dédiés à la mémoire des mafieux. Francesco Emilio Borelli est conseiller régional de Campanie. Il lutte pour que soient supprimés ces symboles.
À un moment, on a arrêté d'enlever les fresques murales, les hôtels dédiés aux criminels, aux mafieux de la Camorra et aux mineurs délinquants. Alors qu'on aurait pu y aller beaucoup plus fort. C'est tout un système criminel, culturel, qui doit être aboli dans notre ville.
Mais la frontière est ténue entre mafieux et délinquants. Exemple avec la fresque géante dédiée à Ugo Russo, un jeune délinquant de 15 ans qui a tenté de voler sa montre à un carabinier en civil qui l'a tué. Un clan de la mafia sicilienne s'est filmé devant la fresque pour soutenir la famille d'Ugo Russo. Ses liens avec la mafia, la famille, les démons, les proches aussi, comme cet homme de 40 ans rencontré devant la fresque, qu'il juge utile.
C'est un message pour tous ses amis du même âge. Ugo a fait une erreur et personne ne doit plus en faire. Si on enlève cette fresque, on va l'oublier. On dit que sa famille avait des liens avec la Camorra, mais jamais. Son père a eu quelques vieilles histoires, mais ça n'a rien à voir avec la Camorra.
Dans ces quartiers espagnols en plein cœur de Naples, on roule encore sans casque à trois sur un scooter. Ici, les règles, toutes les règles, ce n'est pas pour tous. À Naples, Bruce de Galzin, France Inter.
Toute cette semaine, dans le journal de 8 heures, nous vous emmenons dans les coulisses de la campagne présidentielle en France. Pas encore officiellement démarrée, mais déjà bien entamée à 4 mois du scrutin. Ce matin, Élodie Forêt nous raconte ce jour où un meeting de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen s'est ouvert avec une prière musulmane en arabe. Nous sommes à Mayotte le 18 décembre.
Sous un soleil de plomb, 300 Mahorais agitent des fanions bleus sur scène en attendant Marine Le Pen. Des traditionnelles prises de parole politiques quand soudain, un dignitaire religieux s'approche du micro et se met à psalmodier. Une prière musulmane reprise en chœur par le public. Quelques minutes avant, en privé, le dignitaire avait déjà béni la candidate. S'ensuit une scène encore plus inimaginable alors que Marine Le Pen salue la foule. On entend distinctement des « Allah Akbar, Dieu est grand ». Inimaginable car depuis des années, la candidate RN défend une vision radicale de la laïcité. En 2017, elle voulait interdire tous les signes ostentatoires dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est spécifiquement le voile qu'elle combat. Mais à Mayotte, Marine Le Pen déroge à ses propres règles. Ici, tout le monde est musulman, explique-t-elle, mais c'est un islam sécularisé, sans revendication et qui ne représente aucun danger. En cas de victoire, et si son projet de loi contre l'islamisme est adopté, il ne s'appliquerait donc pas ici. C'est dans la Constitution, défend Marine Le Pen. En Outre-mer, il y a des spécificités dont il faut tenir compte.
Faudra-t-il rejouer le match de 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et Lyon ? La Fédération française de football tranche aujourd'hui et prononcera d'éventuelles sanctions. La rencontre a été arrêtée à la mi-temps à cause de bagarres entre supporters. À l'heure où l'on écrit les dernières notes de 2021, France Inter vous propose un petit bilan musical de l'année. Et le choix a été cornélien. Mathieu Culeron, vous avez eu la lourde tâche de sélectionner 3 albums, pas un de plus. Et en numéro 1 pour vous, Mathieu, Clara Luciani.
Oui, Clara Luciani, qui, avec son deuxième album, a vraiment confirmé son statut de chanteuse populaire. Et ce qui est assez impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle elle a passé ce cap. Son premier album avait connu le succès sur le tard, un peu en deux étapes. Là, entourée des producteurs Sage et Breakbot, elle se classe numéro 1 très rapidement, avec une efficacité redoutable, et notamment avec ce titre.
Le reste est devenu un véritable hymne du déconfinement. Et la fête n'est pas finie non plus pour Orelsan. Mathieu, c'est le champion toute catégorie de 2021.
Oui, le rappeur normand qui, avec son 4e disque, a fait exploser les compteurs. Un album disque d'or avant qu'il ne sorte, 5 Bercy complets et un album certifié triple platine en un mois, s'il vous plaît. Civilisation, c'est le nom de ce disque qui dresse un constat assez sombre de notre société. Un disque qui parle en définitive à tout le monde. Aurel San qui s'impose donc cette année et qui touche un public encore plus large.
Mickey dit tube au bon moment, le tir passe à un mètre. Son fumigène de merde s'éteint avant même qu'il jette. Un corps percute le sol près de moi, du sang sort de la tête. Je reconnais France, je me dis qu'elle aura pas sa retraite.
Voilà le manifeste d'Aurel San qui aura été un peu le patron durant cette année 2021. Et enfin, cette année aura aussi été marquée par le 3e album de Feu Chatterton, un disque sorti en plein confinement. Succès de vente, succès critique, un disque brillant, poétique et ancré dans la réalité. Ça a été un coup de cœur immédiat et ça nous a incite en plus à sortir nos têtes de nos écrans. Que demander de plus ?
Monde nouveau de Feu Chatterton pour une année nouvelle. Merci Mathieu Culeron du service culture de France Inter.
Et le journal était présenté par Cécile Bidot. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Stéphanie, la pluie est de retour.
Et oui, c'est une perturbation qui transporte ces pluies d'ouest en est. Elles ont gagné les régions de la façade océanique pendant la nuit. Sont venues balayer ce matin la Normandie, le centre-val de Loire, l'Aquitaine, l'Occitanie, puis l'Île-de-France, la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Elles vont traverser pendant l'après-midi les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté. Les précipitations sont souvent soutenues, pouvant se transformer en neige sur les Alpes à partir de 1200 mètres, dès 2000 mètres sur les Pyrénées. À l'arrière de cette première onde, le ciel alterne entre des averses et des éclaircies avant qu'une nouvelle perturbation chargée de pluie ne regagne la côte atlantique en fin de journée. Et puis il faudra également compter avec un vent qui se renforce, 60 km/h dans l'intérieur, 70 près des côtes atlantiques, 80 en soirée sur la façade ouest et localement 100 km/h sur les côtes girondines et vendéennes.
Et la journée se déroule dans la douceur.
Les températures sont clémentes. Pour la saison, s'échelonnent entre 9 et 18 degrés. Vous pourrez compter sur 7 degrés à Évian, 9 à Belfort, 11 à Saint-Étienne, 13 degrés à Paris, 14 à Rennes, comme à Blois et Marseille, 16 degrés à Biarritz et Montauban.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 8h17, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Christelle.
Vous avez connu personnellement l'archevêque Desmond Tutu en Afrique du Sud. Vous revenez donc ce matin sur sa vie et sur son action.
Desmond Tutu a eu trois vies. Le libérateur, le réconciliateur et la boussole morale. Trois vies de combat et de foi étroitement mêlées, récompensées par la défaite de l'abominable système d'apartheid, mais déçu par l'inconstance des successeurs de Nelson Mandela. J'ai été le témoin de sa première vie, lorsqu'au milieu des années 70, il a émergé comme le porte-voix des sans-voix, alors que les dirigeants de la majorité noire étaient en prison ou en exil. J'allais l'écouter le dimanche à l'église Regina Mundi de Soweto, l'immense banlieue noire de Johannesburg, où il enflammait les foules sans cesse plus nombreuses. À la sortie, des blindés de police les attendaient, agacés par ces rassemblements, difficile à interdire dans un pays qui se disait chrétien. Desmond Tutu maniait un humour ravageur, son arme suprême. Il énonçait une parole biblique qu'il opposait à ceux qui, au sein du pouvoir blanc, justifiaient l'apartheid au nom de leur foi chrétienne. Et surtout, il communiquait l'espoir. Il fallait être persuasif pour oser rêver, à la manière d'un Martin Luther King, au cœur des heures les plus sombres de l'apartheid, que les Noirs seraient libres. Un jour.
Vous disiez, Pierre, qu'il avait été une boussole morale?
Oui, car si Desmond Tutu a pris sa part, et plus que sa part, dans la lutte anti-apartheid, au point de recevoir le prix Nobel de la paix en 1984, il n'a jamais sacrifié sa liberté de penser à l'engagement politique. Avant comme après l'apartheid, il n'a jamais été complaisant avec ses amis. Alors que les townships s'enfonçaient dans la violence dans les années 80, il était intervenu pour empêcher le lynchage de ceux que la foule considérait comme des collaborateurs de l'apartheid. « Ne devenez pas comme eux », leur disait-il, prenant le risque d'être lui aussi rejeté. Mais c'est surtout après l'unique mandat de son ami Nelson Mandela qu'il est devenu la référence morale dont l'Afrique du Sud avait bien besoin. Il a dénoncé toutes les dérives des successeurs de Madiba, à commencer par la corruption et le népotisme des anciens libérateurs qui se croyaient tout permis.
Était-il entendu ?
C'est sans doute la grande déception de sa vie bien remplie, de voir ses espoirs de nation arc-en-ciel, la formule est de lui, minés par ceux-là même qu'il avait accompagnés aux marches du pouvoir. Il avait même publiquement annoncé qu'il ne voterait plus pour le Congrès national africain, le parti de Mandela, lorsque Jacob Zuma, alors président sud-africain, avait mis le pays en coupe réglée. À la mort de Nelson Mandela en 2013, c'est à Desmond Tutu qu'il est revenu de clore l'hommage officiel, signe de son autorité morale incontestée. L'archevêque à la retraite a alors imposé un silence total à la foule et lui a fait promettre devant Dieu de rester fidèle à l'exemple de Mandela. Aujourd'hui, il faudrait ajouter l'exemple de Mandela et de Tutu, mais il est à craindre que l'Afrique du Sud pleure ses héros tout en ayant du mal à se hisser à leur hauteur.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Dominique Costagliola et Robert Cohen.